Vous écoutez, on lit pour vous.
John Ware, le cow-boy noir méconnu de l'Ouest canadien. Un texte de Marc Poirier, paru le 8 juin 2024 dans l'Express.ca de Toronto. Imaginez qu'un jeune cow-boy américain arrive dans l'Ouest canadien à la fin du 19e siècle et qu'il acquiert tout le respect de la région grâce à son habileté avec les bêtes. Imaginez qu'un tel personnage soit resté, malgré tout, quasi absent des livres d'histoire. Imaginez maintenant qu'il soit noir. Voici le récit de John Ware. Le destin de John Ware est tout à fait remarquable. Les faits entourant sa jeunesse sont incertains. Il ne savait ni lire ni écrire et n'aurait que dévoilé très peu de détails sur sa vie. Certaines sources le font naître en situation d'esclavage, soit au Tennessee, soit dans une plantation en Caroline du Sud. Après la guerre civile américaine, il se serait rendu au Texas, où il apprend le métier d'éleveur de vaches. Il devient cow-boy. En 1879, il est embauché pour mener un troupeau d'environ 2400 bovins jusqu'au Montana, soit une distance de 3000 kilomètres. Il reste quelques années dans cet état, à la frontière de l'Ouest canadien d'aujourd'hui. 3000 bovins vers l'Alberta. La Northwest Cattle Company l'approche pour conduire un troupeau de plus de 3000 bêtes au nord de la frontière, dans ce qui deviendra l'Alberta. Cette compagnie était considérée comme l'un des plus puissants propriétaires de ranchs du Sud, de ce qui était alors les territoires du Nord-Ouest. Elle agissait avec l'aval du gouvernement fédéral de John A. Macdonald, qui souhaitait asseoir l'autorité du nouveau pays, qu'était le Canada, dans ce territoire et attirer des colons. John Ware traverse la frontière en 1882 pendant une terrible tempête de neige et réussit à livrer le bétail à l'un des ranchs de la compagnie dans les environs de Calgary, une ville naissante. Cette nouvelle vaste région d'exploitation bovine de la Northwest Cattle Company deviendra connue sous la marque de bétail Bar U et son cheptel atteindra 10 000 bêtes. De ranch à ranch. John Ware travaille pour la compagnie pendant 2 ans, avant de se joindre à un autre ranch, le Corn, où il s'occupe de chevaux. Puis, en 1888, il établit son propre petit ranch de bovins à Sheep Creek, non loin du ranch Corn, au sud de Calgary. En peu d'années, son troupeau compte des centaines de têtes. Il continue en même temps de travailler à forfait dans des ranchs voisins. Il commence alors à jouir d'une réputation dans le maniement des chevaux. On disait qu'aucun cheval sauvage qu'il avait monté n'avait réussi à le désarçonner. Il était aussi connu pour sa force physique, son courage et son esprit novateur. John Ware a été l'un des premiers ranchers de la région à prendre l'eau d'une rivière voisine pour irriguer ses terres qui étaient verdoyantes. Il ne manquait jamais de foin pour son élevage. Racisme et discrimination. Bien qu'il ait été respecté par ses employeurs et ses confrères cow-boys, John Ware a dû faire face, comme les autres personnes noires, à du racisme et de la discrimination. Certains politiciens de la région s'opposait à l'immigration de personnes noires provenant des États-Unis. Plusieurs histoires ont circulé à ce sujet. On lui aurait souvent refusé l'entrée dans des commerces et autres établissements. Un barman aurait refusé de lui servir à boire et, surtout, l'aurait insulté en le traitant de nom désobligeant. Poussé à bout, John Ware l'aurait rué au sol. Certains disent qu'il a dû acquérir des terres à 2 fois le prix des ranchers blancs. rencontre de sa femme. Quelques années plus tard, il rencontre Mildred Lewis, fille d'un colon et ébéniste noir arrivé de l'Ontario. Ils se marient en 1892. Le couple poursuit l'exploitation du ranch de Sheep Creek pendant une dizaine d'années. Mais de plus en plus de nouveaux colons s'établissent dans la région et clôturent les pâturages. John Ware commence à se sentir étouffé. La famille, qui compte maintenant 5 enfants, se déplace et établit, en 1902, un nouveau ranch sur le bord de la rivière Red Deer, près du village de Dutchess, environ à mi-chemin entre Calgary et la frontière de la Saskatchewan. Très habile au lasso, il voit sa célébrité monter d'un cran en 1893 lorsqu'il remporte sa première compétition de terrassement du Bouvillon lors de la foire d'été de Calgary. Cette foire allait plus tard fusionner avec un rodéo pour devenir le célèbre Stampede de Calgary. Le malheur frappe cependant en 1905. Mildred meurt d'une pneumonie. Quelques mois plus tard, ironie du sort, John meurt lorsque le cheval qu'il montait trébuche dans un terrier de blaireaux. Les enfants sont recueillis par les parents de Mildred. Aucun de ceux-ci n'aura d'enfants. Les deux derniers sont morts en 1989. Une renommée posthume. Connu presque seulement de la communauté de cowboys de l'Alberta, John Ware verra sa renommée grandir au fil des ans, ainsi que sa reconnaissance. Depuis 1968, une école de Calgary, accueillant des élèves de la 7e à la 9e année, porte son nom. En 2012, Poste Canada a lancé un timbre à son effigie. Deux ruisseaux ont également été nommés en son honneur. En 2022, son nom est inscrit à la liste de personnages historiques nationaux du Canada. La plaque érigée en son honneur au lieu historique national du Ranch Bar U, au pied des Rocheuses, en Alberta, souligne que Ware excelle dans une industrie dominée par des hommes blancs et de grandes sociétés d'élevage bien financées. Sa générosité et ses compétences supérieures lui valent une renommée durable et une place dans la mythologie de l'Ouest canadien. Un livre, John Ware's Cow Country, a été rédigé par Grant McEwen, ancien maire de Calgary et ancien lieutenant-gouverneur de l'Alberta. Deux livres jeunesse ont également été écrits à son sujet, soit John Ware, 1845-1905, Le Cowboy noir de l'Ouest canadien, d'Amadou Ba, et Howdy, I'm John Ware, d'Ayesha Clough. L'Office national du film a même produit un documentaire sur lui, sur les traces de John Ware, réalisé par Cheryl Fogo. Comme le dirait le regretté Serge Bouchard, qui présentait au micro d'une émission de Radio-Canada les portraits de personnages surprenants mais maltraités par l'histoire, John Ware est un remarquable oublié dont on se souvient de plus en plus. C'était John Ware, le cowboy noir méconnu de l'Ouest canadien. Un texte de Marc Poirier, paru le 8 juin 2024, dans l'express.ca de Toronto.
Al Capone, Tessouat, Cadieu et la baronne du Pontiac. Un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 8 août 2024 dans la presse. Le Pontiac, fleur oubliée perchée au bout d'une branche interminable. La route 148 est peut-être l'une des régions de l'Outaouais et du Québec les moins connues. Pourtant, son histoire a tout ce qu'il faut pour nous donner envie de la visiter. Au début de la Nouvelle-France, cette région située à l'extrémité ouest du Québec, jouait un rôle économico-militaire crucial. À 2 heures à l'ouest de Gatineau, se trouve une île appelée des Algoumequins, par Champlain, puis île des Souates, puis petite île aux Allumettes, et aujourd'hui, île Morrison. Elle fait partie de la municipalité de l'île aux Allumettes. Véritable forteresse entourée de rapides, l'île permettait aux Algonquins de verrouiller la rivière des Outaouais et d'y imposer des droits de passage. Ils contrôlaient ainsi le chemin le plus rapide entre les pays d'en haut et ceux d'en bas. À l'époque de la Nouvelle-France, l'expression « pays d'en haut » couvrait un vaste territoire qui pouvait inclure, selon l'époque et l'auteur, le nord-ouest du Québec, les Grands Lacs, la baie d'Hudson, la rivière Rouge, etc. Aujourd'hui, on l'utilise au Québec pour désigner une partie des Laurentides. En 1613, Tessouat le Borgne, chef algonquin qui, un temps, donnera son nom à l'île, bloque d'ailleurs le passage à Champlain, qui devra attendre 1615 et contourner Tessouat pour pouvoir aller explorer la Huronie. Tessouat est un remarquable oublié dont je vous recommande l'histoire. Tous les grands explorateurs et tous les grands chefs de guerre qui ont parcouru l'Amérique du Nord sont passés près de son île. Champlain, Radisson, d'Iberville, La Vérendrye, Desgroseilliers, etc. Elle fait rêver. Ceux qui voulaient contourner Tessouat ont plutôt foulé le sol de la presqu'île de Rapide des Joachins, un village situé plus à l'ouest, à l'embouchure de la rivière du Moine. La Dumoine, l'une des dernières rivières sauvages non harnachées du Québec, permettait de contourner le royaume de Tessouat par le nord, en redescendant la Noire ou la Coulonge, et ainsi rejoindre Montréal gratuitement. Si une balade dans l'Outaouais vous intéresse, il y a un seul livre, un livre extraordinaire, à connaître. Il recense tous les sites patrimoniaux de la région et il se lit comme un roman. L'autre Outaouais, guide de découverte du patrimoine par Manon Leroux. La section sur le Pontiac compensera la quasi-absence de mise en valeur de l'histoire des lieux par les autorités locales. Presque tout ce que vous venez de lire et ce qui vient en est tiré. Albert Demers, né en 1910, est lui aussi un remarquable oublié de l'île aux Allumettes. Petit, il prend l'habitude de sculpter des animaux de la forêt et des scènes de chasse. De riches chasseurs s'entichent de ses œuvres et en font la promotion. Al Capone, le célèbre gangster, possède un pavillon de chasse au nord de Rapide des Joachins. En 1930, il embauche Demers pour peindre des scènes de chasse sur les murs de son manoir à Chicago. Quelques années plus tard, l'acteur, Clark Gable, lui demande la même chose. Demers, fils d'un modeste agriculteur, vivra de son art. Sur la route de l'île aux Allumettes, vous passerez nécessairement par Portage du Fort. Ayez une pensée pour Elsie Gibbons. En 1953, les habitants du village l'ont élue mairesse en son absence, sans lui demander son avis et à l'unanimité. Pour eux, cette femme d'affaires était la seule à avoir le talent nécessaire pour régler les problèmes du village. En acceptant le défi, elle devenait la première mairesse de l'histoire du Québec. Un peu plus loin, à l'ouest de Portage du Fort, à l'entrée de la municipalité de l'île du Grand Calumet, se trouve une croix blanche au cœur du petit parc Cadieux, un site qui rappelle un des beaux récits de la Nouvelle-France. Jean Cadieux était un coureur des bois, interprète, marié à une Algonquine. Il se serait sacrifié pour sauver ses amis et sa famille d'une attaque iroquoise. Le lieu de sa mort, a longtemps été un site de pèlerinage pour les voyageurs qui se rendaient dans les pays d'en haut. Avant de s'éteindre, il aurait écrit un chant de mort sur une écorce de bouleau, la complainte de Cadieux. Alexandre Béliard l'a mise en chanson. Toujours plus loin, à l'ouest, en amont du village de Chinboro, vous découvrirez un autre lieu dont, j'en suis certain, vous n'avez jamais entendu parler, le site du Rocher à l'Oiseau. C'est l'un des plus importants sites archéologiques de peinture rupestre en Amérique du Nord. Le rocher, une paroi haute de 150 mètres, est parsemé d'une soixantaine de peintures, des dessins stylisés vieux de plusieurs siècles, exécutés à l'ocre rouge. Le site est sacré pour les Algonquins. Notez que les peintures ne sont pas visibles de la rive, il faut les voir à partir de la rivière. Toutefois, de superbes randonnées pédestres sont possibles sur la crête des montagnes qui la bordent, et des reproductions des peintures sont visibles sur des panneaux d'interprétation. Le rocher doit probablement son nom au faucon pèlerin, l'oiseau tonnerre, l'oiseau le plus rapide au monde, qui y niche encore aujourd'hui. Je termine cette introduction au Pontiac par un personnage bien vivant, Jane Toller. Parfois surnommée la baronne de Fort Coulonge, elle est préfète de la MRC du Pontiac depuis 2017 et j'ai eu l'honneur de travailler avec elle. Avant de se lancer en politique dans le Pontiac, elle a été conseillère municipale à Toronto et y a même brigué la mairie en 2006 sous le nom de Jane Pitfield, patronyme de son mari. Elle est l'arrière-arrière-petite-fille de Georges Brison, un baron du bois qui régnait sur le Pontiac à la fin du 19e siècle. Les Brisons sont les seuls barons du bois de l'Outaouais dont on peut encore voir un certain nombre de résidences prestigieuses. Grâce à la baronne, il est possible d'y avoir accès. En effet, elle a racheté le manoir ancestral familial, le Spruce Home Inn, bâti en 1875, pour en faire un superbe gîte touristique et un centre de conférences. Mi-gîte, mi-musée, l'auberge vaut à elle seule le voyage à l'extrême ouest du Québec. C'était Al Capone, Tessouat, Cadieux et la baronne du Pontiac, un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 8 août 2024, dans la presse.
Cinquante ans après la super Franco-fête, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 10 août 2024 dans Le Devoir. Dans l'effervescence qui régnait au début des années 1970 autour de l'affirmation du français, la super Franco-fête a marqué les esprits. Au mois d'août 1974, ce sont des représentants de 25 pays qui s'étaient donné rendez-vous à Québec. Le pinacle de cet événement, un concert unique, le 13 août 1974, Robert Charlebois, Gilles Vigneault et Félix Leclerc. C'était à savoir qui avait vu ce soir-là le loup, le renard et le lion, comme on les surnomma dans l'ordre. Entre chacun d'eux, il y avait 15 ans d'écart, explique l'animatrice Monique Giroux. Félix avait peur de Robert, le gars qui envoyait sa batterie valser dans le public de l'Olympia. Robert, c'était le petit Hubert Lenoir de l'époque. Il faisait plus peur qu'il n'était à craindre. En soi, le lieu constituait un symbole fort. Les plaines d'Abraham, associées à la défaite du 13 septembre 1759, se voyait reprise au nom de la puissance symbolique de la chanson. Je crois que Montcalm n'était pas loin dans l'air. Il devait au moins regarder la scène, laisse tomber en riant Monique Giroux. Oui, il y avait dans toute la symbolique des airs de revanche. Ce spectacle de 1974, comme l'explique Danick Trottier, professeur de musicologie au département de musique de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, prenait bel et bien des allures de revanche symbolique. Tout était musical dans ce Québec du début des années 1970. La musique était en effervescence. Ce soir-là, ils sont 100 000, dira-t-on, à se masser pour entendre Leclerc, Vigneault et Charlebois. En entrevue, Danick Trottier en appelle à la prudence. Ils n'étaient sans doute pas 100 000, comme on a pu le prétendre. Jusque-là, les grands concerts extérieurs, dont on apprivoisait l'amplification, n'avaient jamais compté au Québec plus de 10 000 ou 15 000 personnes. Alors, en comparaison, c'est vrai que c'était énorme. Il nous reste une histoire de ces grands événements extérieurs à écrire. Trois gars, pas de filles. Ils étaient juste trois gars. On ne se demandait pas trop à l'époque où étaient les filles, remarque Monique Giroux. Et comme ils n'étaient que trois, cela leur permettait de prendre leur espace. L'événement occupe une telle place dans l'imaginaire populaire, observe le professeur Trottier, qu'il éclipse à peu près tout ce qui se passe par ailleurs dans cette super franco-fête de 1974. Lorsque le trio entonne « Quand les hommes vivront d'amour », la chanson humaniste par excellence du répertoire québécois, le public est déjà conquis. Ce spectacle n'a pas été hissé pour rien au rang des grands événements qu'a connu le Québec dans son rapport à la musique, estime le professeur Trottier. Cependant, il y aurait beaucoup à considérer pour prendre une plus juste mesure de ce qui survint alors. À quoi exactement les premiers ministres Trudeau et Bourassa étaient-ils conviés ce soir-là? Pas seulement à un concert. Au-delà de la musique et de ses envolées lyriques, l'événement était en soi politique. La marche du président, chantée par ses chanteurs qui forment une sainte trinité, se transforme en critique acerbe de la situation politique du moment, alors que Pierre Elliott Trudeau et Robert Bourassa font partie des invités d'honneur, note Danick Trottier. Après le spectacle, Trudeau et Bourassa sont allés rencontrer les trois chanteurs, raconte Monique Giroux. Trudeau aurait alors dit à Charlebois qu'il était tout sauf un gars ordinaire, comme le racontait sa chanson. Ce à quoi Charlebois aurait répondu en pointant Bourassa, « En tout cas, lui, c'est un premier ministre ordinaire. » La scène a été corroborée. Trudeau avait invité le trio à prendre le petit-déjeuner avec lui le lendemain matin dans sa suite du Château Frontenac. Félix, d'une génération de gens bien élevés, avait accepté le premier. Il était question que les trois expliquent à Trudeau que l'heure était venue de laisser de la place au Québec. Mais le lendemain, lorsqu'ils seront accueillis par un premier ministre occupé à peler une orange, celui-ci ne les laissera pas placer un mot, et les trois en seront quittes pour rentrer bredouille, leur considération politique sous le bras, résume Monique Giroux. Un élan francophone. Si ce grand spectacle constitue le temps fort de la super franco-fête de 1974, celle-ci ne se résume pas à cela. À l'événement s'attachent plusieurs autres manifestations culturelles, mais aussi des événements sportifs et des rencontres politiques. Toute une jeunesse y travaille. À l'époque, Jogues Sauriol, un jeune soudeur aux opinions politiques tumultueuses, avait été engagé, comme d'autres de ses amis, par Gérard Bélanger et Lucien Gagnon. Ce dernier était responsable de la programmation de l'événement. Gérard Bélanger était pour sa part le concepteur d'un village des arts créé de toutes pièces derrière la vieille prison, désormais partie intégrante du Musée national des beaux-arts. « Nous avons passé l'été là à tout monter, à assembler de gros modules. Bélanger et Gagnon avaient engagé leurs amis sculpteurs et soudeurs. Des gens qui, d'ordinaire, crevaient de faim, se retrouvaient à travailler pour organiser l'événement. Ça a changé nos vies. » L'année suivante, les modules de métal et diverses installations de la Super Franco-Fête vont permettre, rappelle Jogues Sauriol, de créer un autre événement à grand déploiement au même endroit, la Chantaou. Du 10 au 17 août 1975, le public put voir et entendre plusieurs artistes dont Sylvain Lelièvre, Claude Léveillé, André Gagnon, Monique Lérac, Stéphane Venn, Raymond Lévesque, Pauline Julien, Louise Forestier et René Martel. Autrement dit, la super franco-fête aura mis la table à la transformation des Plaines d'Abraham en une sorte de grand théâtre de la chanson française. En fait, explique Monique Giroux, la super franco-fête a déclenché la valse des grands événements de la chanson en plein air qui vont suivre, à Montréal comme à Québec, mais aussi les francopholies de La Rochelle. L'événement fait date, assure l'animatrice. Même Léo Ferré, qui n'est pas le moindre, aurait dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas eu cette idée avant ?» L'animatrice observe par ailleurs que, si on en parle encore aujourd'hui, il faut bien se le dire, c'est en bonne partie parce qu'il y a eu un enregistrement du spectacle. Ce serait oublié, du moins en bonne partie, s'il n'y avait pas eu ce disque. En 1974, à l'occasion de la Super Franco-Fête, ce sont 25 pays qui sont conviés par l'Agence de coopération culturelle et technique, prélude à ce que nous connaissons désormais sous le nom de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le gouvernement fédéral canadien voyait dans son implication au sein de cette organisation un moyen de regagner du galon du côté de la francophonie et, ainsi, de se repositionner par rapport au Québec. La question linguistique brûle alors toutes les lèvres au Canada français. En 1974, le gouvernement québécois de Robert Bourassa adopte la loi 22. Si cette loi fait du français la langue officielle du Québec, elle ne satisfait ni les francophones ni les anglophones. La grogne gronde. La musique constitue dès lors un exutoire. 50 ans plus tard, du 15 au 31 août 2024, se tiendra à Québec une nouvelle super franco-fête. La programmation est disponible en ligne. En guise d'hommage au concert de Leclerc, Vigneault et Charlebois, on a aussi organisé, le 26 juillet 2024, le spectacle « Plaine de chansons », qui mettait également en scène plusieurs générations de musiciens. Le grand spectacle du 26 juillet 2024, conçu pour la télévision, rassemblait beaucoup de monde, rappelle Monique Giroux. Pierre Lapointe, Claude Dubois, Diane Dufresne, Hubert Lenoir, Robert Charlebois et plein d'autres y étaient présents. Trop de monde, pense l'animatrice, pour que des figures aient eu le temps cette fois de s'imposer aux consciences d'aujourd'hui. C'était 50 ans après la super franco-fête, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 10 août 2024 dans Le Devoir.